Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Le quorum étant atteint, largement, nous allons donc pouvoir ouvrir cette séance du conseil municipal du lundi 5 mars 2018 à 18h35. Bien. Avant de commencer les débats, je voudrais au nom du conseil municipal et de la population présenter nos sincères condoléances à Vincent Pouillaud et à sa famille. Vincent a perdu son papa et qu'il sache que nous partageons sa peine. Donc, concernant la séance de ce soir, nous avons le pouvoir de Mme Trévilly à Mme Roux. Nous commençons donc par l'approbation du compte rendu de la séance du 2 février 2018. Qui a été affiché et transmis par voie électronique le 10 février 2018. Je demanderai aussi à Mme Roux de bien vouloir assurer le secrétariat de séance. Concernant le compte-rendu de la séance du 2 février, y a-t-il des remarques particulières ? Bien, donc...
Du 5 février,
oui, très bien, excusez-moi, je ne vais pas faire le jeûne. Bien, séance donc du 5 février, bien, je le soumets donc aux voix, pas d'opposition, abstention, je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons procéder d'abord à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Par courrier du 5 février 2018, qui a été réceptionné le 6 février, Madame Emmanuelle Valérian, conseillère municipale, a remis sa démission. Des réceptions de cette dernière, une copie intégrale de la lettre de démission a été transmise à Monsieur le préfet de Vaucluse. Conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral et de l'article 2121 du Code général des collectivités suivantes, des collectivités territoriales, le suivant de la liste conduite par Monsieur Luc Rénard, c'est M. Joël Charbonnel qui est appelé à remplacer Mme Valérian et à venir compléter le conseil municipal. Donc le conseil municipal, suite à la démission de Mme Valérian réceptionnée le 6 février, prend acte de la vacance d'un siège au conseil municipal, procède à l'installation de M. Joël Charbonnel ainsi qu'à la modification du tableau du conseil municipal. Donc il n'y a pas de vote pour... Cette opération, c'est une opération administrative. Je souhaite donc bienvenue à Joël Charbonnel dans cette assemblée délibérante et je remercie Emmanuel Valérian pour son activité au sein de l'équipe municipale. Question numéro 2, modification numéro 2 du plan local d'urbanisme. Donc vous l'avez eu en annexe dans tous les dossiers qui vous a été transmise le 28 février 2018, parfois par mail en cas de besoin. Donc je donne la parole à Monsieur Petit pour une lecture importante et longue.
Le PLU de Bédouin a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2011. Depuis l'approbation du PLU, il a fait l'objet d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2016 qui a annulé partiellement la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le PLU. D'une modification simplifiée numéro 1 approuvée par délibération du Conseil municipal du 15 décembre 2016 et d'une modification numéro 1 approuvée par délibération du Conseil municipal du 3 juillet 2017. En parallèle, une révision générale a été engagée par délibération du Conseil municipal en date du 10 novembre 2015 au cours de la même séance, comme le permet l'article L153-33 du Code de l'urbanisme. Le Conseil municipal a débattu les intentions générales du PADD suivantes. Affirmer la position centrale de Bédouin à la croisée des territoires entre Ventoux et Carpentras. Affirmer le rôle de ville-centre au cœur économique du Mont Ventoux. Maîtriser le développement urbain et résidentiel. Protéger les espaces naturels, agricoles et valoriser la trame verte et bleue. Monsieur le maire expose que le PLU comprend des zones UY, UYF2 et UYH pour une superficie totale de 11,55 hectares dont l'ouverture à l'urbanisation est prévue dès lors qu'elles seront raccordées au réseau public d'assainissement. Cette réglementation interdisant les nouvelles constructions et n'admettant que les extensions et annexes des constructions existantes s'apparente à une réglementation caractéristique des zones à urbaniser, les zones AU. Or, la zone UY et le secteur UY2, situé chemin des Granges au sud-est du village, pour une contenance de 8,68 hectares, correspond aux extensions récentes de Bédouin et sont aujourd'hui raccordées au réseau public d'assainissement. Le règlement de la zone doit ainsi évoluer afin d'ouvrir cette zone à l'urbanisation. Conformément à l'article L153-38 du Code urbanisme, lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. La présente délibération tient lieu de délibération motivée à ce qu'elle comporte en annexe une note justifiant de cette ouverture à l'urbanisation. Parallèlement, afin de permettre en cohérence le règlement et le zonage des autres zones UY et UYH, un reclassement est opéré en zone 1 à UY et 2 à UY au regard des possibilités futures de raccordement au réseau collectif d'assainissement. Deuxième point, des évolutions diverses du règlement, du zonage et des emplacements réservés doivent être apportées. Une mise en cohérence des zonages des cimetières existants et projetés, ainsi que l'actualisation des emplacements réservés destinés à leur extension, doivent être réalisées dans les secteurs du village, de Sainte-Colombe et des Baux. Le PLU prévoit des emplacements réservés destinés à la création d'aires d'assainissement. L'une de ces aires a été réalisée au sud du village. L'emplacement réservé correspondant peut être donc supprimé. Un autre, toujours en projet à l'est du village, voit sa capacité réduite par la réalisation de deux parkings à proximité. L'emplacement réservé correspondant peut être donc réduit. Le PLU prévoit à titre de l'ancien article L123-2B du Code d'urbanisme des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme, de logement. L'une de ces servitudes a été mise en œuvre par la réalisation d'un programme de logement. Elle peut donc être supprimée du PLU. À l'usage, il a apparu que des corrections et améliorations diverses devraient être apportées au règlement du PLU, dont une double erreur matérielle apparue sur le plan de zonage d'un secteur de Bélézy lors de l'approbation de la modification numéro 1 du PLU. Il convient de corriger cette erreur sans conséquence sur le règlement. Troisièmement, le PLU, approuvé le 21 décembre 2011, a fait l'objet de plusieurs évolutions au travers de la procédure de modification simplifiée numéro 1, approuvée le 15 décembre 2016, portant sur les secteurs des ferrailles. Une procédure de modification numéro 1, approuvée le 3 juillet 2017, portant sur le risque de ruissellement sur le rétablissement de certaines dispositions du PLU, annulée par l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille du 26 mai 2016 et sur la prise en compte des évolutions du cadre législatif. Ces procédures ont eu pour effet de modifier ponctuellement les documents graphiques du PLU en identifiant le nouveau zonage sur ces zones, sur des zones. Il convient donc de numériser le PLU actualisé de ces évolutions au standard CNIG en vue de sa mise en ligne sur le géoportail de l'urbanisme. Dans ces conditions, en application de l'article L153-35 du Code d'urbanisme, entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions, allégées, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. Une modification du PLU pourrait donc intervenir dans le cadre des articles L153-36 et suivants du Code de l'urbanisme, le plan local. Le PLU est modifié lorsque la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientation et d'action. Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L153-35, L153-36, L153-37, L153-38 et L153-40 relatifs à la procédure de la modification du plan local d'urbanisme. Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R153-20 et R153-21 relatifs aux mesures de publicité et d'affichage. Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2011. Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2015 engageant la révision générale du PLU et témoignant du désir du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 mai 2016 annulant partiellement la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le PLU. Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2016 approuvant la modification simplifiée numéro 1 du PLU. Vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 juillet 2017 approuvant la modification numéro 1 du PLU. Vu la note annexée à la présente délibération justifiant de l'ouverture de la mobilisation du parti de la zone UY du secteur UYF2, après avoir entendu l'exposé, il est demandé au Conseil municipal de confirmer la nécessité de modifier le PLU en vue de ouvrir partiellement à l'urbanisation la zone UY et réorganiser le reste de la zone, apporter diverses modifications au règlement, au zonage et aux emplacements réservés, numériser le PLU actualisé. De préciser que cette modification sera engagée par arrêté du maire conformément à l'article L153-37 du Code d'urbanisme, la procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification et que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal départemental d'annonce légale.
Très bien, je vous remercie. Y a-t-il des questions particulières ?
Quelques éléments de question, mais plus de précision, en fait. Hein, que de, voilà. On est dans la modification numéro 2. Je suppose qu'il y aura encore une modification numéro 3, puisque maintenant, on n'est pas dans une révision générale. On est dans une modification qui vont arriver régulièrement. C'est une question. Et est-ce qu'à un moment donné, on pourra redébattre des orientations générales qui ont été débattues en 2015, hein, notamment sur les ambitions spécifiques? Un petit peu, hein, puisqu'on était parti sur 1,3 de taux de croissance de notre population. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 0,6, on perd même de la population merveilleuse. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas revoir à un moment donné ces ambitions et ces orientations-là? Ça, c'était la première question. Est-ce que je les cite toutes et après.
Mais oui, on prend acte de vos questions, sachant qu'elles ne vont pas toutes avoir une réponse immédiate, vous vous en doutez bien.
Modification numéro 3 du PLU. J'ai déjà dit dans cette assemblée que le PLU était un organe vivant. Je crois savoir que le ministère prépare une nouvelle loi. Donc s'il y a des modifications qui doivent être apportées par cette nouvelle loi, nous serons obligés de faire une modification numéro 3 du PLU. À ce jour, j'en ai pas. Si quelqu'un a le texte en avant-première, qui nous le donne, donc je ne l'ai pas. Là, sur l'évolution démographique, effectivement, nous avons délivré une centaine de permis de construire sur les 3 dernières années. Et nous avons pu aussi remarquer que nous avions une perte de population. Donc, après, chacun cherchera sa propre définition de savoir ce que deviennent ces résidences. Et qui les occupe. Et dans la révision qui est en ce moment sur le SCOT, qu'il y a aussi, qui est aussi le chapeau un petit peu du PLU, enfin des PLU locaux, il y a effectivement une recherche sur, enfin une réflexion sur effectivement la progression à l'image de toute l'interco et l'interco qui participe avec nous, c'est-à-dire les terrasses du Ventoux. Donc voilà, donc on n'est plus du tout sur effectivement un chiffre qui sera 1,3. Il sera revu à la baisse dans l'approbation du SCOT qui va intervenir vraisemblablement courant 2019.
Ça fait 147 habitants de plus pour 2025, si on est à 0,6.
Voir,
ça change la donne au niveau des terrains à rendre constructibles.
Mais il faudrait,
justement, ma deuxième question.
Juste une question. Il faudrait peut-être qu'avant de diminuer la croissance, il faudrait peut-être que celle-ci reprenne.
C'est un autre débat, peut-être.
Ah non, c'est du comptage.
Tu as raison. Mais
c'est plus de mon constat.
Et là, on n'est plus sur les mêmes débats. La deuxième, justement, par rapport à ça, la zone UY, elle est déjà urbanisée de manière importante.
Oui,
et si on regarde, on va pouvoir libérer quoi, 2-3 parcelles.
On va pouvoir deux ou trois parcelles, voire pouvoir permettre à des gens qui ont des parcelles conséquentes, puisque c'était la volonté de la loi ALU, de soit, s'ils ont 3000 mètres, de pouvoir rétrocéder 1000 mètres à un de leurs enfants ou à quelqu'un d'autre s'ils en ont envie, et de faire une nouvelle construction.
Alors, de la précision dans les termes, il n'est pas question de bouger quelques frontières que ce soit.
Oui,
Et non, mais je le reprécise, puisque je pense que c'est quand même utile de le faire. Donc, effectivement, nous avions, et ça vous vous en souvenez, ce n'est pas récent, nous avions un déficit d'équipement d'un secteur qui avait, donc à une époque donnée, était ouvert à la construction. Ce secteur qui était soumis à un gel, appelons-le ainsi, dans la mesure où ses réseaux n'étaient pas tirés. Lors de la dernière municipalité, donc, il avait été convenu avec le syndicat Renevantou, chargé notamment de l'adduction, de l'assainissement et de l'eau potable d'un certain nombre de réalisations. Parmi ces réalisations se trouvait celle du secteur qu'on appelle communément les Estévadans. Donc elle a été faite et nous nous trouvons aujourd'hui dans l'obligation d'appliquer à cette zone, puisque maintenant plus rien ne s'oppose justement à ce qu'elle soit traitée comme d'autres zones le sont sur la commune, à ce qu'on la remette à niveau. Alors effectivement, ensuite, chacun sera libre ou non de conserver sa grande parcelle, peut-être de la limiter, mais sachant que nous ne sommes pas dans de la réglementation de zone U où l'on peut construire, disons, de façon totale, hein, tous les sols qui s'y retrouvent. Vous vous souvenez que nous avions pris justement à ce propos une décision qui visait notamment par la création d'espaces verts autour des maisons et de surfaces d'infiltration dans les jardins. Nous avions en quelque sorte encadré la fameuse loi Allure. Donc là, on est strictement dans ce cas. Mais d'ailleurs, on vous a donné pour les conseillers municipaux un document qui vous fait donc la photographie aérienne de cette zone avec les maisons qui sont à ce jour déjà en place. Voilà, ça vous convient ?
C'est bon ? Voilà. L'autre question, c'est sur le calendrier de la modification. Il y a prévu quelque chose ? Il y a un calendrier ?
Comme toute modification, il va y avoir saisine de toutes les personnes publiques associées.
On a une idée de ce calendrier ?
Monsieur le maire va prendre l'arrêté. On va faire une publication dans les journaux.
On va saisir
le tribunal pour avoir un commissaire enquêteur. Il y aura un document qui sera consultable en mairie et où les gens pourront faire leur doléance, faire leurs remarques. Vu que je vous avais dit que c'était un organe vivant, la preuve en est que le syndicat est en train de raccorder le hameau des Bruns, qui est en zone UY. Donc il se peut qu'effectivement, les gens aient tout à fait raison de saisir le commissaire enquêteur sur l'extension effectivement des dispositions à avoir sur le hameau des Bruns, qui sera donc rendu viabilisé vraisemblablement ou en même temps ou tout de suite après la révision du PLU. Il en sera de même pour le hameau des Vendrans, qui sera vraisemblablement raccordé à terme. Donc chaque fois qu'on aura un raccordement sur ces zones-là, elles auront vocation, de fait, à rentrer en zone urbaine. Enfin, à changer le vocable Y. Donc vous avez compris qu'on va mettre un AUY sur ces zones-là ou deux AUY selon le rythme d'avance du syndicat.
Autre question ?
Il y avait Alain.
Oui, non, ça rejoint partiellement. C'était surtout cette ouverture, je dirais, cette nouvelle caractérisation de la zone par rapport à l'accroissement potentiel. Est-ce qu'il en avait été une cause ? Je ne suppose pas. Et donc, c'est estimé à combien ?
400 euros ? Une vingtaine.
Une vingtaine.
Au pire, une vingtaine de maisons. Enfin, au pire ou au mieux, chacun prendra le terme. Le terme qui lui convient. Donc, c'est. Voilà. C'est,
voilà. Oui. C'est des grandes parcelles.
Oui. Oui. Après, il va y avoir aussi dans les dispositions du PLU, on va s'approcher plutôt d'une emprise au sol proche des 15%, c'est-à-dire en deçà de la dernière zone, qui est la zone D. Donc on va demander 80% de zones libres et un droit à construire autour de 15%. Donc ça va faire partie de tout le corps de l'explication qui va être présentée dans le cadre de l'enquête publique.
Okay. Bien, plus de questions. Je soumets donc au bois. Bon, pour le reste, vous avez compris, ce sont des emplacements réservés dont on n'a plus utilité, notamment autour des cimetières. Bon, on a voté la dernière fois l'acquisition du cimetière, de la parcelle voisine du cimetière des Baux. Je dois dire que c'est assez, après de très nombreuses années de négociations avec les uns les autres, vous m'excuserez le terme, on peut voir l'avenir d'une façon un peu plus sereine, sachant que nous serons à même justement de construire ces équipements qui sont tout de même nécessaires pour une collectivité. Bien, je le soumets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 3, Monsieur Petit, cession de la parcelle cadastrée B, numéro 2238, au hameau des Baux.
La commune de Bédouin est propriétaire d'une grange de 56 mètres carrés au hameau des Baux, rue des Treilles, cadastrée section B, numéro 2238, classée zone UA du PLU, ayant fait l'objet d'une préemption en février 2009 pour un montant de 15 245 euros. Cet immeuble est aujourd'hui en état de ruine et inutilisé par la commune. Considérant que la commune a reçu des propriétaires riverains de la parcelle une proposition d'achat le 27 octobre 2016, confirmée le 2 janvier 2018 pour un montant de 18 000 euros, vu l'avis domanial du 22 septembre 2017 portant à 14 225 euros la valeur vénale de la parcelle, vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L210.1 et L213.11, vu le code général de la propriété des personnes publiques, vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2141-1, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession de la parcelle B2238 au prix de 18 000 euros à M. Patrice Bigel et à Mme Agnès Seigneau, de donner pouvoir à M. le maire ou à son adjoint à l'urbanisme en vue de la signature de l'acte notarié et de toutes les pièces afférentes, et de dire que les crédits seront prévus au chapitre 24 du budget principal 2018.
Très bien, donc c'est la cession d'une parcelle rue des Treilles que nous ne sommes pas parvenus. Et là aussi, il faut refaire un petit peu l'histoire. À une époque donnée, donc nous avions des propositions d'organismes, de bailleurs sociaux qui se proposaient d'intervenir pour boucher des dents creuses dans des hameaux, bon, ce qui était assez cohérent dans la mesure où il y avait une optimisation des réseaux. Or, la politique donc, de ces structures a subitement changé et nous avons quelques parcelles, dont celle-ci, dont nous n'avons plus utilité, pour lesquels il n'est pas envisageable, compte tenu du coût de la construction, de faire nous-mêmes des petits appartements. Bien, je le soumets donc. Oui, monsieur Costa.
Ça a changé récemment, d'achat d'achat de 2009.
Non, ça a changé. On a toujours eu l'espoir. Donc nous avions aussi à cette époque acheté pratiquement pour les mêmes raisons ce qui fait office maintenant de place au Beau. Et donc les deux maisons autour, donc c'est quelque chose qui date de 2009. Donc nous sommes en 2017, 2012. Ouais. Ouais, 7-8 ans. 7-8 ans, ouais.
Parce que la poste, ça a été, la transformation a été réussie, ou la poste ?
Oui, mais il y avait les murs, on partait des murs.
Oui. Il y a l'investissement associé.
Oui. Oui, les bailleurs sociaux ne montent plus sur des opérations.
Vous la situez, cette parcelle-là ?
Oui, c'est à les murs, là, quand même.
Et ils sont pas nous.
C'est la cour avec un hangar. Enfin, un ancien toit de hangar.
C'est derrière... Madame Bérard, oui. Donc, on n'a pas de toiture, là. Au contraire, on avait été obligé de sécuriser le chantier pour éviter les éboulements d'hiver.
Parce que là, il y a un nom d'acheteur potentiel, et deux noms. Est-ce que la publicité a été faite à l'intérieur du hameau des Baux pour savoir s'il y avait d'éventuels autres acquéreurs?
Mais bien sûr, il n'y en a pas que. Les riverains ont été contactés, mais bon, vous connaissez la situation de la, de la maison dont est issue cette parcelle.
Oui, mais est-ce qu'il y a eu une publicité de fait au niveau du hameau des Baux, c'est tout?
Non. Tout le monde à l'affaire, pourquoi la faire simplement au niveau du hameau des Baux? On aurait pu le faire passer sur le livre des domaines aussi. Non, on a un voisin qui nous a fait une demande de compte tenu, parce qu'on a, on a notre souci, c'est que l'état de notre propriété risque d'entraîner à terme, si les choses continuent, un délabrement, voire un arrachement des murailles du voisin. Donc on avait deux solutions, soit on gardait effectivement l'affaire, soit on essayait de trouver la meilleure solution.
De la mise en vente, je crois.
D'accord.
Maintenant, il y a beaucoup de communes qui vendent c'est leur bien pour financer
autre chose. Enfin, finir, avec 18 000 euros, on n'ira pas loin.
Hein. Oui.
Non, mais ça, d'accord, je ne parle pas de ce cas précis. Je parle de la façon de...
Oui, bien sûr.
De la publicité.
56 mètres carrés.
Ce bien à la vente, quoi, tout simplement.
Non. Bah, non. Non, mais c'est vrai que ça rejoint un peu ben, les cessions de terres agricoles, donc tu es au courant, c'est-à-dire c'est le voisin qui va voir l'autre, puis ensuite, je veux dire, c'est pas...
Non, mis à part que quand c'est de particulier à particulier, c'est un cas, quand c'est un bien communal, c'est un autre cas. Ben, c'est mon avis, hein.
Oui, non, d'accord.
Ouais, vous le partagez peut-être pas, mais c'est mon avis.
Bien, je soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions? C'est bien. 2, 3, 4, 5. Des abstentions. Je vous remercie. Donc, dans les oppositions, nous avons mesdames, Perrin, Maller, messieurs Bernard, Constant, Rossetti. Merci pour les autres voix. Donc, numéro 4, travaux de restauration partielle de l'église. Tranche optionnelle 1, demande de subvention auprès de la DRAC. Colette Leclerc, s'il vous plaît, madame l'adjointe.
Monsieur le maire rappelle que les travaux de restauration partielle de l'église viennent d'être engagés pour la tranche ferme. Cette opération doit s'échelonner sur 5 exercices budgétaires, dont 4 tranches optionnelles, et représente un montant hors taxe de travaux estimé à 2 189 937 euros. Considérant que le financement de la Direction régionale des affaires culturelles est de 35% obtenu pour la tranche ferme, peut être sollicité pour chacune des tranches optionnelles et concernerait à la fois les travaux et les honoraires. Pour cette tranche spécifique, le plan de financement serait le suivant. Tranche optionnelle qui correspond au mur de soutènement, charpente et couverture et au clocher, 483 228 euros, des honoraires pour 17 512 22 euros, donc un total de 500 737 50 euros. Alors le financement se ferait par le conseil départemental pour 50 158 euros 36, pour la DRAC, donc les 35% que nous demandons, 175 256 37, et la commune de Bedouin pour un financement de 275 318 87. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de la Direction régionale des travaux des affaires culturelles une demande de subvention de 175 256 37 euros, représentant 35% du montant prévisionnel de la tranche optionnelle 1 des travaux de restauration partielle de l'église. De donner pouvoir à M. le maire de signer toutes pièces relatives au projet et à solliciter toute autre subvention ou participation auprès des financeurs institutionnels.
Très bien. Des questions particulières? Donc c'est une subvention de la DRAC sur laquelle on est sûr de l'obtention. Mais néanmoins, formellement, on est tenu de vous le faire valider.
Juste une question, le coût a évolué, puisqu'on avait pris le premier plan de financement, faisait état de 1 730 000. Et là, on fait état de 2 189 000. Alors, je suppose qu'il y a eu des choses qui se sont affinées et des coûts qui se sont affinés.
En particulier, le mur de soutènement.
Qui donc coûte plus cher.
Ouais. Ah oui, parce qu'au départ, on était basé sur rien. Quoi. Ouais.
Sud de derrière.
Là, on est à peu près calé sur le montant d'une estimation où ça va encore bouger. Parce que c'est...
Dans l'ancien et dans l'existant, on ne sait jamais trop où on va. Hein, mais ouais. A priori, il ne devrait pas y avoir de surprise. Quoi.
Sachant que là, après, ça
va être l'objet des marchés. Au niveau de la toiture, les sondages ont été faits, donc on sait normalement où on va. Mais là aussi, on pourra avoir des surprises.
Il peut y avoir des aléas.
C'est
toujours
rêvé.
Oh, même vu. Bien, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La romanité à Bédouin. Madame Leclerc, de la même manière.
Monsieur le maire rappelle aux conseillers municipaux l'étude d'opportunité et de faisabilité pour la création d'un site d'attractivité touristique et culturelle sur Bédouin, commandé par la COB et réalisé par le cabinet d'études Les Maîtres du Rêve. La commune cherche à conforter son attractivité touristique en réduisant sa notoriété à la seule dominante actuelle de la pratique cycliste, mais en faisant exister les facettes et nombreuses ressources du Piémont du Ventoux, territoire d'exception. Agriculture de qualité, tradition potière bimillénaire, art de vivre méditerranéen, activités de pleine nature, patrimoine bâti remarquable, terre pontificale, sont quelques-uns des atouts du territoire à valoriser. Suite à la découverte de la villa gallo-romaine des Bruns en 1995, des fouilles de sauvegarde ont été entreprises jusqu'en 2000. Cette ferme comprenant une exploitation agricole et son habitation, incluant ses thermes, témoigne d'un art de vivre gallo-romain qu'il convient de préserver et de promouvoir. Les vestiges ne parlant pas d'eux-mêmes, la médiation humaine reste nécessaire à l'espace d'interprétation qu'il est proposé de créer in situ. En effet, un dispositif d'appui à une découverte accompagnée de l'intérieur de l'enceinte de la villa est envisagé avec un observatoire extérieur d'interprétation depuis le chemin forestier au nord du site. Disposant d'un bâtiment désaffecté mobilisable positionné au cœur du village. La municipalité envisage de réhabiliter l'ancienne caserne des pompiers en espace d'accueil touristique et promotion du territoire, showroom et espace de dégustation. Des collections diverses, poteries, pièces archéologiques, peintures, mais aussi vélos de coureurs cyclistes y trouveraient leur place. Le fonctionnement de cet espace serait mutualisé avec la COV, Service culture et patrimoine, et la SPL Ventoux-Provence OTI. Par délibération numéro 2018-024 du 2 février 2018, le Conseil municipal a approuvé le plan de financement prévisionnel de cette opération, considérant que des subventions peuvent être sollicitées auprès d'autres financeurs institutionnels. Le plan de financement prévisionnel est actualisé comme suit. Alors, il y a des études et des prestataires sur la Villa des Bruns et l'ancienne caserne. Villa des Bruns, 54 903 euros. Ancienne caserne, 90 701 euros. Des travaux à la Villa des Bruns pour 298 220 euros. Et l'ancienne caserne pour 434 000 euros. Soit un total de 877 014 euros. Il y a donc des recettes, la DETR pour 350 000 euros, une subvention de la COV de 200 000 euros et le FRAT pour la région PACA de 151 611 euros. La commune de Bédouin ne supporterait que 20% de ses dépenses, soit 175 403 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter auprès de M. le président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin une demande de subvention de 200 000 euros représentant 22,80% du montant prévisionnel de l'opération, de donner pouvoir à M. le maire de signer toute pièce relative au projet et à solliciter toute autre subvention ou participation auprès des financeurs institutionnels.
Bien, merci. Donc, on a, vous avez vu qu'il y en a, il y a exactement la même délibération qui suit, simplement pour chacune. Donc, c'est la demande de subvention à un organisme en particulier. Oui, lors du dernier conseil municipal, on avait donc approuvé la demande de subvention de 350 000 euros pour la DETR. Celle-ci, c'est pour la COV, et derrière, donc, on aura le FRAT, sachant que les 20% de participation de la commune sont une obligation, puisqu'on ne peut pas aller au-delà. Donc, voilà. Vous faites les mêmes commentaires que l'autre fois, si vous vous en souvenez.
Non. Une question, une précision par rapport à la fois. C'est que la dernière fois, quand on a évoqué la DETR, tu nous as dit que cette année, c'était orienté sur le tourisme.
Oui.
J'ai réécouté un enregistrement. Je suis allé chercher la circulaire donc, de la préfecture 2018 sur la DETR. Et moi, que les investissements s'étendent aux bâtiments communaux et intercommunaux, aux voiries, aux achats de biens. Aux équipements sportifs, etc. etc. Il n'y a pas de restriction particulière.
Oui.
La dernière fois, j'avais pu comprendre l'inverse. Oui. Donc, par rapport à ce projet, moi, ce que je pense, personnellement, c'est qu'on met un petit peu toutes nos subventions potentielles sur ce projet afin de diminuer le coût de la commune. Par contre, la DETR a pu être mise sur un autre projet, sur, par exemple, je ne sais pas, moi, la place, mon équipement sportif. On parlait il n'y a pas très longtemps. Et donc, je pense que c'est une stratégie pour minimiser ce coût de 877 000, qui est quand même un petit peu conséquent au final.
Voilà. On est bien dans
je
le cadre.
Quand même à le préciser.
Merci. On est bien dans le cadre de l'intercommunalité, pour autant que je sache.
Non, voilà. Je rappelle quand même, globalement, la DETR, la dernière fois, on m'a dit que c'était uniquement orienté sur le tourisme, ce qui n'est pas le cas. Donc, je me permettais quand même, après tout, de redire, d'éclaircir les choses et puis de constater qu'il y a une volonté. Après, c'est une volonté. Donc je ne juge pas plus que ça. Je dis que moi, je constate que ce jour, les 20%, on y arrive en mettant toutes nos subventions potentielles dessus. Voilà.
Je pense que c'est une pratique qui est quand même habituelle que d'essayer de rechercher un maximum de financement et de choisir, permettez-moi une seconde, et de choisir justement les projets qui nous paraissent les plus opportuns pour essayer de les faire financer au maximum. Donc aujourd'hui, donc nous sommes sur ces demandes-là, comme je vous l'ai dit, enfin vous l'avez vu lors de la préparation, on va continuer à demander ces subventions en espérant que les élus et les parlementaires qui sont à la commission des ETR verront d'un œil favorable le dossier de la commune de Bédouin. Il paraît qu'il y a même des parlementaires cette année dans les commissions des ETR. Enfin, moi, je ne connais pas, mais moi, je me suis laissé dire ça. Et donc, effectivement, l'important, il est quand même plus important de concentrer les subventions sur un projet que l'on pourra réaliser que d'emmener X en même temps et de répartir les subventions potentielles, je dis bien potentielles puisqu'on n'est jamais sûr de rien, que de faire de l'éparpillement. Quoi. Nous, c'est la tactique qu'on a toujours choisie. Alors oui, effectivement, mais vous voulez dire que c'est un fait majoritaire que d'avoir choisi de se concentrer là. Mais ça fait partie des prérogatives d'une majorité.
La dernière fois, quand j'ai posé la question, je me dis que c'était uniquement sur les orientations touristiques. Bon, je suis allé voir par curiosité quand je me renseigne. Effectivement, je vois que ce n'est pas le cas. Donc, je fais une intervention là-dessus, je dis que c'est un choix, voilà,
Donc ce n'était pas vrai que c'était uniquement sur les investissements.
Non, il y a toute une liste.
Non, mais tu l'as dit.
Ce n'était pas vrai. Quelle est la destination? Vous venez de le voir dans le descriptif. Quelle est la destination de la caserne des pompiers et donc de la liaison avec la villa des Bruns? Est-ce que c'est pour faire de la production agricole? Est-ce que c'est... soyons clairs quand même. Alors que j'ai usé d'un abus de langage, mais veuillez m'en excuser humblement. On reste quand même dans la... Mais je suis... Bon, je veux bien qu'on aille dans les détails, mais La dernière fois, vous nous aviez dit que c'était un peu choquant de mettre des vélos en même temps qu'autre chose. Bon, apparemment, il y a des... Oui, vous le pensez toujours. Bon, c'est pour ça que j'attendais que vous me fassiez à nouveau cette remarque. Vous devriez au contraire nous féliciter de choisir notre mode de valorisation de notre territoire, hein, puisque certains sont allergiques aux vélos. Mais effectivement, on est bien là aussi dans le cadre d'un bâtiment intercommunal. Ce qui est quand même important, c'est que l'on soit dans un des axes qui soit dégagé. Hein, vous doutez bien que si on avait demandé, je pense que c'est, si on avait demandé pour l'église, ben, le dossier aurait déjà été d'entrée du temps perdu, puisqu'on n'était pas dans le cadre qui nous était demandé. Quoi.
Voilà. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est par rapport à l'opportunité. Pas tellement sur la ville de Brun, c'est plus sur la caserne. Alors, on va transformer... on n'a pas beaucoup d'espace hein, sur la commune du patrimoine qui pourrait servir à d'autres destinations. Et là, on va le transformer. On va y mettre presque 520 000 euros pour y mettre voilà, l'office de mutualisé de la Cove et la SPL Provence.
Oui.
Voilà. Il y avait sûrement peut-être d'autres opportunités, d'autres choses à faire de cette caserne. Mais je m'en étais déjà exprimé. Après, qu'on fasse des demandes de subvention.
Après lesquelles ? Bon, on m'avait proposé aussi de mettre des logements sociaux aussi. Bon, c'est pas le choix qu'on en a fait. Alors après, à un moment donné, on me l'aurait reproché de la même manière. Et, je pense quand même que compte tenu de sa situation, mais c'est quelque chose qui doit être fait là et pour d'autres choses, pour favoriser le développement local. Favoriser l'économie locale. Et là, on m'a bien dans ce sens. Oui, mais après, effectivement, tous les choix sont discutables. Oui, voilà.
On peut au moins en discuter.
Oui, bien, discutons. Bien, je le soumets donc au voix. Y a-t-il des oppositions ? Alors, ça fait 6. Qui sont mesdames, Emmanueli, Maller, messieurs Bernard, Constant, Rossetti et Campon. Voilà, donc approbation pour le reste de l'Assemblée dûment représentée. La délibération suivante, je vous demande un peu de bienveillance vis-à-vis de Madame Leclerc quant à sa lecture, puisque c'est exactement la même. La seule différence étant que la subvention demandée là, de manière à atteindre justement les 80%, c'est celle du FRAC, donc de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a instauré, vous le savez, il y a 2-3 ans, une nouvelle politique de financement, là aussi, dont nous n'avons pas encore bénéficié. Et on espère là aussi être écouté d'une oreille attentive, et ce, pour un montant de 151 611 euros. Bien, donc, je peux le soumettre directement aux voix. Je ne me suis pas trompé. Ah ben oui, qu'est-ce qui... Bien sûr, bien sûr. La DETR, c'est de l'État, hein, et le FRAT, c'est de la région. Voilà. Et même, on arrive à des moments donnés à avoir des cumuls de subventions d'un même organisme. Oui, enfin, nous... C'est plus le même notre contrat de plan. Auparavant, la région intervenait d'une façon, peut-être plus ponctuelle, alors qu'il a été décidé de limiter, c'était il y a 2 ans, lorsqu'ils l'ont mis en place, donc à 8 millions, me semble-t-il, madame, combien 81 millions me semble-t-il, sur le territoire, réparti sur ce qu'il faisait pour tous les départements, ramener à l'échelon de chaque village quelque chose de faible. Donc, autrement dit, il y avait une répartition, mais ce qui est important dans la répartition, c'est qu'elle soit, qu'elle soit régie par des cycles.
L'enveloppe là, du FRAT est 8 millions d'euros.
C'est ça, c'est ce que je dis. Ouais. 8 millions de cents, me semble-t-il. Ouais, mais donc, pour cette raison que je souhaite un traitement.
Juste une dernière question. Par rapport au dépôt de dossier, donc, j'avais vu que la DETR, c'était le 19 avril, je crois. Les autres subventions, donc, ils en ont connaissance au moment où ils font le dossier, ils instruisent le dossier ou...
Les autres subventions, mais les arrêtés attributifs, ça arrive longtemps après le. après les dates.
Et ça a une influence, en fait, normalement, la DETR, ce qu'on nous attribuer par rapport au plan
de... Le FRAT, c'est le 30 avril, oui. Oui. Est-ce que ça a eu une influence? Je ne sais pas. Je ne suis pas à la commission. Je ne sais pas. Et je pense qu'il doit quand même y avoir une analyse de l'état des finances de la commune et de leur capacité à faire ou à ne pas faire. Je ne reviens pas à ce qu'on disait tout à l'heure. On a tout intérêt à concentrer. Peut-être ça génère un effet d'entraînement, mais je ne suis pas certain de cette corrélation. Bien, je le mets à nouveau au voix. Y a-t-il des oppositions? Donc, 6. Madame Perrin, Madame Malher, Monsieur Bernard, Monsieur Constant, Monsieur Rossetti, Monsieur Campon, merci pour la preuve favorable pour les autres élus. Demande du classement du tableau Résurrection du Christ de l'église des Baux au titre des monuments historiques. Madame Leclerc.
Monsieur le maire rapporte la visite du conservateur des antiquités et objets d'art de Vaucluse ayant sollicité son accord pour procéder au classement monument historique d'un objet mobilier de l'église paroissiale. Le tableau de l'église des Baux, Résurrection du Christ, attribué à Simon Chalon en 1552, a été présenté devant la commission départementale des objets mobiliers réunis par monsieur le préfet de Vaucluse le 30 novembre 2016. Une lettre d'accord a été adressée à la Direction régionale des affaires culturelles le 30 mars 2017. Suite à la réorganisation de la Commission nationale des monuments historiques, dorénavant dénommée Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette proposition de classement, considérant que ce tableau fait partie du patrimoine mobilier de la commune, considérant l'intérêt pour cette œuvre, de bénéficier d'une protection et particulièrement d'un classement monument historique. Il est demandé au conseil municipal de solliciter le classement du tableau Résurrection du Christ présent dans l'église des Baux au titre des monuments historiques, d'autoriser monsieur le maire à prendre toute décision relative à la présente délibération.
Très bien. Des questions particulières concernant cette opération? Je la soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Retrait de la délibération numéro 2018-022 portant avenant à la convention de mise à disposition du SIG de la Cove. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
En délibération numéro 2018-022, le conseil municipal a approuvé le 5 février 2018 l'avenant à la convention de mise à disposition du service connaissance et cartographie de la Cove proposé le 16 décembre 2017. Or, par courrier du 16 février 2018, la COV informe les communes que l'EPCI a décidé d'appliquer un tarif journalier unique pour l'ensemble des services mis à disposition par la COV. Par conséquent, le cours journalier de mise à disposition du service CCT a diminué. Il est proposé une nouvelle convention qui annule et remplace la convention précédente afin de bénéficier de cette diminution de charges. Le conseil municipal ayant déjà approuvé la convention cadre par délibération numéro 2017-062 du 27 mars 2017, une simple décision du maire est requise pour la signature de cette convention particulière. Vu le code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal de retirer la délibération numéro 2018-022 du 2 février 2018 et de dire que la convention fera l'objet d'une décision du maire.
Très bien. Des questions particulières? Donc, a priori, on irait plutôt vers une réduction de notre participation.
C'est pas le 5
février, encore. Si, c'est le 5, oui. Je crois qu'il y a une erreur tout au long.
Il y a une erreur tout au long.
Oui. Bien. Pour cette délibération, des oppositions, des abstentions, je vous remercie pour cette unanimité. Le syndicat des trufficulteurs, Nathalie Reynard, s'il vous plaît, adjointe à la forêt.
Donc, monsieur le maire explique l'opportunité pour la commune d'adhérer au syndicat des trufficulteurs de Vaucluse. Pour rappel, il y a 27 lots de truffiers dans le Ventoux qui représentent 6400 hectares, grosso modo, qui sont certes mis en location par appel d'offres, mais néanmoins la commune en est propriétaire. Et donc, on a pensé qu'il était intéressant d'adhérer au syndicat. Donc, la cotisation est fixée à 35 euros pour l'année 2018. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts du syndicat, il est demandé au conseil municipal d'adhérer au syndicat des trufficulteurs Vaucluse, de dire que la cotisation sera supportée par le budget annexe exploitation forestière.
Très bien, oui. Oui, pour information, nous étions invités parce que le maire, à titre personnel, était adhérent et donc... on n'avait pas de représentation véritablement officielle. Alors, le maire continue à payer sa cotisation, 35 euros, voilà, est adhérent, et la commune le saura, ce qui lui permettra, à des moments donnés, de prendre des positions qui seront éventuellement officielles. Bien, je le mets donc aux voix pour cette dépense du budget de la forêt. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Bien, mesdames, messieurs, la séance, pour moi, est terminée. Y a-t-il des questions particulières ? Monsieur Campo. Pardon. Je n'ai pas vu, excusez-moi.
Juste une question à l'enseignement. Au niveau des travaux de la maison de retraite,
oui.
Est-ce que ça ne devait pas commencer en février ?
On devait commencer premier trimestre, monsieur Faure.
Oui, effectivement, ça devait commencer en janvier-février. Nous avons d'abord été retardés par la maison de retraite qui avait des difficultés avec son plan de financement. Il fallait donc attendre l'accord du conseil général, enfin du conseil départemental. C'est fait. Et maintenant, c'est un retard imputable à l'architecte, au cabinet d'architecte, qui... nous pose problème. Voilà.
Il n'y a pas de date.
On a dit,
pour l'instant,
oui.
C'est...
Je préfère ne pas m'engager sur une date.
Non plus.
Je veux juste savoir s'il y avait eu des problèmes depuis que l'on a parlé. Merci.
Oui. Très bien.
C'est juste une question d'urbanisme, d'information. Hein. La zone 2 UA vers la piscine, qu'est-ce qu'elle devient?
La zone 2AU, dans l'autre sens. Donc la zone 2AU reste en zone à urbaniser, tant est que on fasse faire l'assainissement par la route de Crayon-le-Brave jusque chez les pompiers. Voilà. Donc les travaux n'étant pas encore prévus par le syndicat, la zone 2AU reste zone 2AU. Jusqu'à une éventuelle, nous revenons au début de ce que nous disions au début du conseil municipal, jusqu'à une éventuelle extension, et à ce moment-là, on se posera la question de savoir si la zone 2AU devient une zone urbaine, au sens strict du terme. Ce qui fera, bien évidemment, une modification du PLU.
Du
syndicalisme et puis de la volonté de s'étendre de ce côté-là.
On n'a pas de plan d'investissement de la part du syndicat sur une vision sur 3 ou 4 ans.
Il n'a pas été question d'une extension sur cette zone-là. Mais l'extension... après, il y a une reprise des réseaux. Et puis l'extension, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est ce qui est à l'étude, c'est le raccordement du hameau des Vendants.
Et oui, la dernière fois, on avait un plan prévisionnel d'investissement.
Dans le déroulé du raccordement des zones qui sont justement potentiellement urbanisables, puisqu'elles avaient été repérées comme ça.
Oui. Lors de la dernière prévision, il avait été réalisé, même en débordant sur les dates, deux équipements sur 5 qui avaient été les héritiers et justement le fameux quartier des Estévadans dont nous venons de parler. Et tout le reste n'avait pas bougé. Et là donc, le syndicat remet en place son... le schéma général.
Son schéma directeur.
Bien. Est-il...
Dans le même sens, près de la Maïra, c'est fini, les achats, le foncier, sur ce terrain-là.
Il reste 3500 mètres, potentiellement, qui sont en ligne de mire pour être achetés, et nous aurons fini les achats. Après, il y aura lieu de faire récemment un échange pour avoir un tènement continu à la zone justement de AU, qui fera une réserve foncière potentielle pour la commune autour de 4 hectares pour les années à venir.
Très bien. Monsieur Constant.
Moi, je souhaitais intervenir suite à l'article de presse de samedi, dans lequel il est marqué que je conteste la compétence du conseil municipal, la procédure du vote. Je n'ai jamais contesté ça. J'ai contesté, effectivement, on ne va pas refaire l'histoire, parce que ça fait bientôt 6 mois. J'ai contesté le fait qu'il y avait 2 points à l'ordre du jour, qu'on a voté globalement ou pas, ça n'a aucune importance, ça aurait été le même sort. J'ai contesté ça. Je n'ai jamais contesté la compétence du conseil municipal, ni la procédure de vote. Ça, c'est faux. Donc, je tenais quand même à le préciser par rapport au collègue élu, c'est pas du tout ça. Donc une fois de plus, en plus je découvre le CGCT, moi je veux bien, mais c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Une fois de plus, mais oui, c'est qui a abrogé la décision, la délibération? C'est bien toi, c'est pas moi. Donc, sur les conseils de l'avocat. Donc si l'avocat à un certain moment il dit d'abroger, c'est pas pour rien. Donc il valait mieux que ce soit l'avocat que le tribunal, c'est sûr. Mais généralement, quand un avocat dit qu'il ne faut pas y aller, c'est que l'affaire est close. Donc je pense qu'on en a assez parlé. Et je trouve que cet article
tout à fait
est de trop. Alors,
c'est votre analyse, mais quant à l'article qui est de trop, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que vous ne
comprenez. C'est pour ça que j'ai
alors, donc je vais vous éclairer. Je vais vous éclairer. Le problème. Il est effectivement sur cette délibération, ma foi, dont on n'est pas sûr ni l'un ni l'autre de son issue. Voilà. Bien. Ça, c'est le premier point. Et là où je dis que vous découvrez le code des collectivités territoriales, c'est qu'à un moment donné, par une obstination répétitive à réclamer des référendums sur quelque opération que ce soit, vous méconnaissez complètement le rôle d'un conseil municipal, c'est-à-dire qu'en tant qu'instance élue, vous ne vous estimez pas capable de prendre des décisions et surtout de les assumer. Parce que ce qui est extrêmement, ce qui est tout de même assez choquant, et pourtant vous n'aviez pas les mêmes scrupules à une époque quand vous avez fait un mandat avec moi, je crois qu'à un moment donné, effectivement, quand on est élu, il faut prendre ses responsabilités. Donc à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On va demander un référendum. Je veux dire, c'est une manière élégante de ne pas prendre de décision. Ah, mais justement, c'est bien ce qui est écrit dans cet article, c'est qu'à un moment donné, vous découvrez le code général des collectivités territoriales en réclamant des référendums, alors que vous ne voulez pas assumer des responsabilités. Donc, moi, je m'arrête là aussi. Ce que j'ai écrit, c'est écrit absolument dans ce sens, et ceux qui savent lire l'auront bien lu. De cette manière.
Il est incompréhensible l'article.
Oui. Il y en a beaucoup qui ont bon, mais très bien. Alors, je vais m'excuser d'être à nouveau incompréhensible.
Ce qui est sûr, c'est que 6 mois après le vote, tu as fait une erreur. Mais ça, on peut l'excuser à la limite. Tu continues à nous accuser de choses qui sont fausses.
Tu nous as même incité à le faire un certain moment.
Donc, tu nous avais même dit.
Mais tu nous as dit, fais
le saisir les autorités compétentes. C'est toi qui nous l'as dit.
Ah, mais tout à fait. Tout à fait.
Voilà. Et maintenant, ça nous fait le reproche.
Ah non. Non, pas du tout. Je vous fais pas reproche d'avoir saisi. De toute façon, attendez, je ne me fais pas d'illusions. J'ai un certain nombre d'années de conseil municipal en tant qu'élu, voire en tant que maire. Je sais très bien quel est le rôle des uns des autres. Donc, on joue un travail d'usure. Moi, le problème, c'est que je ne joue pas, c'est que la responsabilité nous incombe. Donc, voilà, c'est bien ce que je veux dire. Et que recourir à différents procédés, différents artifices, surtout quand... Non, mais moi, ça me gêne pas de développer. Surtout quand on ne sait pas... la démocratie, c'est un outil formidable. La démocratie, c'est un outil formidable quand elle est pratiquée par tous et quand chacun exerce son droit. Ensuite, si des petits groupes de pression... C'est peut-être... Ou vous le découvrez un peu tard. Vous avez été subitement touché par la grâce, mais ne venez pas me dire, on sait très bien qu'un groupe de pression actif ne représentera jamais le résultat, ne serait-ce que d'une élection municipale, où on a quand même beaucoup de mal à obtenir des participations importantes. Encore, on est sur des 80%. L'idéal serait, bien entendu, que l'on puisse faire... avec l'intégralité de la population, une consultation, une expression.
Dans nos deux programmes électoraux des dernières élections, il y a un programme où quelqu'un proposait un référendum. Voilà. Et c'est toi. C'est
oui.
Pas
oui. Nous. Et nous, on a à l'époque,
nos propositions. Et nous, on a l'époque, nos propositions à l'époque. Toi, tu ne pas sur le même sujet, mais on a
ah, oui.
Nos propositions.
C'était un sujet de campagne. Et c'était un sujet de campagne.
Au moment du sujet de campagne.
Oui.
Ce que toi, tu fais.
Non, la vérité, c'est que vous voulez rejouer le match municipal où les urnes ont largement parlé en faveur d'une équipe présente à ce moment dans la majorité. Bien, au mot de plus. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Mais il ne faut pas vouloir refaire les matchs en permanence. Donc, fin de la séance du conseil municipal à 19h35.